À 18h, le journal de la rédaction présenté ce soir par Claire Flochel. Bonsoir Claire.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Elle était la première femme devenue maire de Marseille en juillet dernier. Michèle Rubirola va quitter son poste, elle démissionne. Elle souhaite que son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan, devienne maire. Michèle Rubirola se retrouverait ainsi première adjointe. Vous allez l'entendre dans ce journal, ainsi que des Marseillais étonnés et dépités. On va mourir et même pas sur scène, le spectacle rend vivant. Voici quelques-uns des slogans des manifestants cet après-midi à Paris. Les acteurs de la culture protestent contre la fermeture des salles de spectacle. Anne Lamotte y était pour France Culture. L'Union européenne s'attaque aux GAFA, contrôle des contenus, interdiction pour les géants du numérique de profiter de certaines données de leurs clients. Les précisions depuis Bruxelles d'Angélique Boin dans ce journal. On ira aussi en Hongrie où plusieurs textes anti-LGBT ont été adoptés aujourd'hui par le Parlement. La notion de genre inscrite dans la Constitution. Le Parlement vote également une loi autorisant l'adoption aux seuls couples mariés et alors que la Hongrie interdit l'union de personnes du même sexe. Il y a 6 mois, une page se tournait à Marseille avec l'élection de la candidate du printemps marseillais, l'écologiste Michèle Rubirola. C'était la fin de 25 ans de règne de la droite. Mais une nouvelle page est en train de s'écrire puisque la maire de Marseille démissionne. Michèle Rubirola, qui a pris la parole tout à l'heure, elle évoque plusieurs raisons à cette décision. Sa santé d'abord, elle a été opérée en septembre. Cette épreuve ne m'empêche pas de servir les Marseillais, mais elle limite mon énergie, c'est ce qu'elle déclare. Elle évoque aussi l'ampleur de la tâche qui était la sienne, qualifie d'exsangue les finances de la cité phocéenne. Attention, elle ne quitte pas la municipalité. Michèle Rubirola souhaite échanger de rôle avec son premier adjoint, Benoît Payan, issu, lui, du Parti Socialiste. Écoutez-la.
Je veux donner toutes les chances à ma ville. Toutes ses chances de se redresser. Toutes ses chances de se développer. Toutes ses chances de rayonner. C'est ma responsabilité d'élu et de citoyenne de Marseille. Comme je l'avais promis, je continuerai de prendre soin des Marseillaises et des Marseillais. C'est mon parcours et mon histoire. Être au service de ma ville, de ses habitants, des plus fragiles d'entre eux. C'est pour les Marseillaises et les Marseillais que je me suis battue. C'est pour les Marseillaises et les Marseillais que je me bats. Et c'est pour les Marseillaises et les Marseillais que je fais ce choix.
Et pour les Marseillais, justement, c'est le choc et la stupéfaction, ceux notamment qui croyaient à un renouveau de la ville. Olivier Martoc s'est rendu dans un nouveau bâtiment mis à la disposition d'entreprises éco-citoyennes par la nouvelle municipalité. Écoutez.
Sacronicity, en haut de la Canebière, a ouvert hier. Dans la cuisine commune de ce nouveau lieu consacré à l'économie circulaire, l'annonce de la démission de Michèle Rubirola fait l'effet d'une bombe. Xavier Corbal, fondateur d'Écosphère.
Certainement, il y avait un terreau culturel et simplement une régénération de la direction de la ville qui pouvait porter à s'intéresser plus aux acteurs de la transition écologique. On a eu plusieurs réunions depuis le mois d'août avec la maire et on sentait qu'il y avait quelque chose, mais sans savoir effectivement quel projet on va pouvoir construire ensemble.
Dimitri, d'Entrepreneurs pour la planète, est beaucoup plus dépité.
C'était surtout un espoir citoyen, plutôt transpolitique, d'humanité, de renouveau aussi, de grands ménages, on va dire, politiques qui gangrénaient un peu cette ville. Et là, on a une démission qu'on ne comprend pas, sur des enjeux qu'on ne maîtrise pas et on va se retrouver avec quelqu'un qui n'a pas été élu pour ça. Donc oui, on peut parler d'une démocratie aussi.
Quant à Clémence, 23 ans, actuellement en service civique, chez un déchet par jour, elle ne comprend pas non plus.
C'est surprenant et inattendu. Elle était là depuis très peu de temps, donc elle n'a pas vraiment eu d'apport pour le moment assez important, mais oui, elle avait une bonne image, je trouve. Elle a un métier comme tout le monde, classique, dans la société civile, ouais, c'était un point positif. Ouais.
Cette dernière réflexion est celle qui revient le plus quand vous interrogez les Marseillais. Benoît Payan, le premier adjoint PS, qui devrait lui succéder, a un profil exactement inverse. Il a fait de la politique son métier.
Reportage d'Olivier Martoc à Marseille. Et on reviendra sur la démission de Michèle Rubirola dans l'édition de 22h avec Stéphane Ravier. Le sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône sera l'invité du journal de 22h de France Culture. À Marseille, comme partout ailleurs en France, début ce 15 décembre du déconfinement, mais un déconfinement très strict avec un couvre-feu et sans théâtre, sans musée, sans cinéma, parce que le gouvernement a décidé que c'était trop tôt, que l'évolution de l'épidémie ne le permettait pas. Le monde de la culture du spectacle vivant ne comprend pas cette décision. Syndicats et artistes ont d'ailleurs saisi le Conseil d'État via un référé liberté. Plusieurs centaines de professionnels du monde de la culture ont aussi manifesté cet après-midi à Paris, notamment pour dire leur colère, pour dénoncer, je cite, le mépris du gouvernement à leur égard. Anne Lamotte y était pour France Culture et il y avait foule.
Libérez la culture, libérez les artistes.
C'est la première manifestation parisienne, ce n'est pas la dernière, préviennent les très nombreux manifestants, lassés de jouer, disent-ils, aux bons élèves. On a suivi les protocoles à la lettre et la récompense, c'est quoi? C'est de voir des lieux de culte ouverts et des salles de spectacle fermées, plus tenables pour eux. Quant à l'argument du gouvernement de limiter au maximum les flux, les déplacements de personnes, il est balayé par Philippe Gauthier, le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens.
Aller au spectacle, c'est pas nécessairement aller dans un zénith ou un festival à plusieurs centaines de kilomètres de chez soi. C'est aussi un spectacle dans le théâtre de sa ville, dans le conservatoire. Et ce ne sont pas des flux de personnes qui se précipitent dans des événements de grande taille. C'est une vision caricaturale de la vie du spectacle en France.
Le spectacle qui ne vit plus. Certes, on peut répéter, reconnaissent les metteurs en scène et les comédiens que nous croisons dans la foule. Mais on n'a plus d'argent pour répéter. Et répéter pourquoi ? S'interroge Frédéric Morin, le président du syndicat national des scènes publiques, qui voudrait bien qu'on lui explique ce qui se passe.
La continuité du service public des arts et de la culture est impérieuse dans des périodes de crise. De la même façon que l'éducation nationale, que les services de santé ou que les services sociaux. Et ça, on ne comprend pas pourquoi on nous empêche de réouvrir.
Frédéric Morin, qui a rencontré une nouvelle fois Roselyne Bachelot, hier soir. La ministre de la Culture fait ce qu'elle peut, reconnaît-il. Non, c'est surtout à Emmanuel Macron qu'il s'adresse, le chef de l'État, qui lui aussi est monté sur scène au lycée.
Interpellons-le, rappelons-lui sa jeunesse, rappelons-lui ses temps d'épanouissement qu'il a eu au travers de ça, les émotions que ça a générées, la force que ça lui a peut-être donnée dans sa construction d'individu et la place là où il est aujourd'hui. Alors pourquoi aujourd'hui, nous, il nous méprise ?
Ouvrir sans tarder les salles de spectacle, de cinéma, musée, c'est aussi une question de démocratie. Et peut-être même de santé publique.
Anne Lamotte avec les professionnels de la culture dans la manifestation parisienne. Le Premier ministre Jean Castex a confirmé ce matin une aide de 35 millions d'euros supplémentaires pour le monde de la culture. Attendre ou se réinventer, la culture peut-elle vivre au conditionnel? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin, ses invités, dans le temps du débat juste après ce journal. Une nouvelle version de l'attestation de déplacement est désormais disponible, celle qu'il faut remplir entre 20h et 6h du matin si vous devez sortir pendant le couvre-feu. Couvre-feu qui entre en vigueur ce soir et qui remplace le confinement. Et puis, histoire de passer les fêtes en famille, mais toujours dans la limite de 6 adultes maximum autour de la table, le gouvernement, sur les recommandations du Conseil scientifique, autorise les enfants à ne pas aller à l'école jeudi et vendredi pour pouvoir se confiner une semaine avant Noël. Pour Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN UNSAL, le syndicat des directeurs d'établissements, cela paraît difficilement applicable.
Là, ça va être très compliqué. Bon, d'une part, on sait que les jours avant les vacances de Noël sont globalement pas les plus productifs de l'année, d'une part. Et puis, beaucoup d'établissements ont déjà mis en place des formes plus ou moins hybrides d'enseignement. Je les vois mal se reconfigurer pour deux jours ou trois, parce qu'on oublie un peu que certains établissements travaillent samedi matin. Donc, je pense que c'est plutôt une absence sèche qu'il va falloir constater de la part des familles qui feront ce choix. Je dirais que du point de vue de l'analyse scientifique, il y a une forme de légitimité que tout le monde peut entendre. Maintenant, on savait pertinemment que Noël est le 25 décembre, que le calendrier scolaire de la période s'arrêtait vendredi ou samedi. Donc, on aurait pu imaginer, oui, un peu d'anticipation. Et si on avait le sentiment qu'il fallait prendre des mesures parce que les indicateurs ne sont pas bons, or, ça fait un certain temps qu'ils ne sont pas très bon, on pouvait effectivement penser qu'une anticipation très très nettement supérieure aurait rendu service à bien des établissements.
Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN UNSA, le syndicat des directeurs d'établissements, joint par Hakim Kasmi. La crise sanitaire et ses conséquences qui concernent cette fois-ci le secteur du bâtiment. Ce dernier a dressé son bilan pour 2020 et tiré des perspectives moroses pour l'an prochain. La Fédération française du bâtiment craint que 2021 ne compense pas la chute de cette année. Bonsoir Sarah Ders.
Bonsoir.
La Fédération demande donc des relances concrètes au gouvernement pour éviter la catastrophe.
Oui, c'est une crise donc historique à laquelle s'attend le secteur du bâtiment. Par exemple, seuls 380 000 logements neufs ont été construits en 2020. 2020. Au total, c'est 15% d'activité en moins par rapport à l'année précédente. Après l'arrêt des chantiers lors du premier confinement, l'activité est repartie et l'emploi direct a été globalement maintenu grâce aux aides de l'État. Mais les mois à venir sont plus sombres selon les perspectives de la Fédération française du bâtiment. Premièrement, les permis de construire ont été moins nombreux à cause de la crise, les projets stoppés. Et entre la délivrance d'un permis par une collectivité locale et l'ouverture d'un chantier, il se passe au moins 12 mois. Du coup, cela entraîne beaucoup de retard dans les calendriers. Qui dit retard pour lancer les chantiers dit évidemment crainte sur l'emploi. 50 000 postes seraient en danger. Du coup, le secteur demande des aides fortes et concrètes, un effort supplémentaire donc sur les prêts à taux zéro pour les primo-accédants auxquels pourrait s'ajouter un crédit d'impôt. Le secteur du bâtiment qui demande aussi à bénéficier des mesures récemment prises en faveur de la rénovation énergétique, même si le renforcement de certaines normes environnementales dès l'année prochaine est aussi vu clair comme un frein à une reprise rapide.
Explication signée Sarah Ders pour France Culture, merci. La campagne de vaccination contre le Covid pourrait commencer avant la fin du mois en Europe. L'Agence européenne des médicaments va se réunir lundi prochain et elle pourrait délivrer ce jour-là son feu vert pour le vaccin de Pfizer-BioNTech. Elle a avancé d'une semaine la réunion initialement prévue le 29 décembre et ce, sous la pression du gouvernement allemand. À Berlin, Ludovic Piétenu.
Jens Spahn, le ministre allemand de la Santé, haussait le ton depuis 48 heures face à la situation épidémique très forte en Allemagne. Il considérait qu'il n'était plus possible d'attendre. Conférence de presse, le ministre apporte, dit-il, une bonne nouvelle pour tous les États membres de l'Union européenne. Plus tôt nous aurons un vaccin approuvé, cela aidera à prévenir les décès et à atténuer les souffrances. Automatiquement, cela va permettre de commencer la campagne de vaccination plus tôt que prévu, avant la Saint-Sylvestre, puisqu'il faut, une fois l'autorisation donnée, entre 2 et 4 jours, selon le ministre allemand de la Santé, pour lancer la campagne de ce côté-ci du Rhin.
Ludovic Piétenu, correspondant de France Culture en Allemagne, et j'ajoute que la chancelière allemande Angela Merkel se dit aujourd'hui inquiète face à l'évolution de l'épidémie de Covid-19 dans son pays et pense que les mois de janvier et de février seront très difficiles. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban a accepté la semaine dernière de voter le budget européen. En échange, il obtenait qu'un système de sanctions pour les pays ne respectant pas l'état de droit soit repoussé à plus tard. Et résultat, ne se sentant plus contraint dans ce qu'il veut faire, le parti nationaliste a voté aujourd'hui des lois en rafale et notamment un amendement constitutionnel qui limite les droits des homosexuels et des transgenres. À Budapest, Florence Labruyère.
La mère est une femme et le père est un homme. Ces mots seront désormais gravés dans la constitution hongroise. L'amendement à la constitution affirme aussi que le genre d'un individu est uniquement celui qui est défini à la naissance. Conséquence, une personne transgenre ne pourra plus faire changer ses papiers d'identité pour y inscrire son nouveau prénom. Il faut protéger l'enfant, justifie la droite ultra-conservatrice de Viktor Orban. En clair, il faut l'empêcher d'avoir envie de changer de sexe. Comme le dit la ministre de la Famille, Katalin Novak, un petit garçon doit avoir le droit de grandir comme un garçon et une petite fille doit pouvoir grandir comme une fille. La ministre est aussi à l'origine d'une autre loi votée aujourd'hui. Désormais, seuls les couples mariés pourront adopter des enfants. Jusqu'ici, les homosexuels n'avaient pas le droit de se marier, mais en tant que célibataires, ils pouvaient adopter. La nouvelle loi les en empêche. C'est un jour noir pour la communauté LGBT et pour les droits humains, dénonce le bureau d'Amnesty International en Hongrie. Il n'y a plus de migrants aujourd'hui dans le pays, alors le gouvernement Orban nous choisit comme bouc émissaire, affirme l'association Hatter, qui défend les minorités sexuelles. Certes, il est possible de contester ces lois devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais une action en justice coûte très cher et il faut patienter plusieurs années.
Florence Labruyère, correspondante de France Culture en Hongrie. L'Union européenne veut remettre de l'ordre dans le chaos du trafic sur Internet. Le commissaire français Thierry Breton en charge du marché intérieur et la commissaire à la concurrence Margaret Vestager ont détaillé cet après-midi leur arsenal législatif pour imposer des règles aux géants du numérique, les GAFA, accusés d'abuser de leur pouvoir. Une liste d'obligations et d'interdictions assortie de sanctions très dissuasives. Cette réglementation devra faire l'objet d'une négociation avec le Parlement européen et les États pour une entrée en vigueur espérée d'ici 2 ans. À Bruxelles, Angélique Bouin.
Tout ce qui est interdit dans la vie réelle doit l'être aussi sur Internet. L'objectif n'est pas de faire disparaître les grandes plateformes, a insisté Thierry Breton, mais elles devront à l'avenir, dit-il, s'organiser pour respecter nos règles.
On n'a pas le droit de dire du mal de son voisin ou trop violemment. On n'a pas le droit de proférer des propos haineux. On n'a pas le droit de vendre des produits illicites, des produits contrefaits. Tout ce qui fait aujourd'hui que nous faisons vie en société dans notre vie quotidienne doit aussi faire société dans le monde numérique.
La Commission veut exiger une plus grande transparence des algorithmes, interdire le siphonnage par les grandes plateformes de données des PME dont elles vendent les produits. Elles devront aussi s'engager à mieux contrôler leur contenu en engageant par exemple plus de modérateurs. Pour l'eurodéputé français LR Geoffroy Didier, en charge de ce dossier, tout cela va dans le bon sens, mais le Parlement, dit-il, voudra aller encore plus loin.
J'ai fait des propositions comme par exemple celle qui consiste à mettre fin à l'anonymat complet sur Internet en obligeant les plateformes à récupérer par exemple la carte d'identité au moment où un utilisateur crée un nouveau compte.
La future législation prévoit de lourdes sanctions, des amendes pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial des entreprises concernées.
Angélique Bouin, correspondante de France Culture à Bruxelles. Il faudra qu'elle soit approuvée par le Parlement et les États membres. Les catastrophes naturelles vont coûter plus de 62 milliards d'euros aux assureurs cette année, soit une augmentation de 40% par rapport à l'an dernier, selon le rapport du géant suisse de l'assurance. Parmi les catastrophes les plus coûteuses, il y a notamment eu les gigantesques incendies dans l'ouest des États-Unis. Les États-Unis, où le chef de la majorité républicaine au Sénat a félicité aujourd'hui Joe Biden, président élu des États-Unis. Ce message est adressé au lendemain du vote des grands électeurs en faveur des démocrates. Le président sortant, Donald Trump, refuse toujours de reconnaître sa défaite. Écoutez le chef de la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell.
The Electoral College.
Le collège électoral a parlé.
Je tiens donc aujourd'hui à féliciter le président élu Joe Biden. Il est bien connu au Sénat. Il se consacre au service public depuis de nombreuses années. Je veux aussi féliciter la vice-présidente élue, notre collègue de Californie, la sénatrice Harris. Au-delà de nos différences, tous les Américains peuvent être fiers que notre nation est une femme vice-présidente élue pour la toute première fois.
Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat américain. Au moins 333 adolescents ont porté disparus dans le nord-ouest du Nigeria depuis l'attaque de leur pensionnat dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Leur enlèvement revendiqué par le groupe djihadiste Boko Haram, selon le gouverneur de l'état de Katsina. Des discussions sont en cours avec les auteurs de ce rapt. Elle est détenue en Iran depuis un an et demi. L'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelra s'est vue décerner le prix Irène Joliot-Curie. Il récompense l'œuvre des femmes dans l'univers des sciences et de la technologie. Christian Chéneau.
La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelra ne croupit plus dans la sinistre prison d'Evin de Téhéran, mais elle n'est pas encore totalement libre. Elle doit subir un contrôle judiciaire tatillon. Elle avait été arrêtée en juin 2019 avec son collègue du série Roland Marshall. Le prix Irène Joliot-Curie, qui récompense des femmes dans le secteur de la recherche scientifique, lui a été décerné pour l'ensemble de ses travaux de recherche en anthropologie et sciences politiques. Une façon de mettre à l'honneur Fariba Adelra, femme de courage, symbole même de l'engagement intellectuel, scientifique et culturel, manifeste vivant de la lutte pour l'indépendance d'esprit, selon les mots de Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Car ce prix, Irène Joliot-Curie, est aussi porteur d'un message politique qui dépasse la personnalité de Fariba Adelra. Dans la République islamique, la recherche scientifique et universitaire est un exercice périlleux. Les lignes rouges sont nombreuses et les services de sécurité sont impitoyables. L'anthropologue anglo-iranien Kamel Hamadi vient d'être condamné à 9 ans de prison par la justice iranienne qui lui reproche des recherches subversives. Il travaillait sur des questions controversées telles que le mariage des mineurs et les mutilations sexuelles en Iran.
Précision signée Christian Chéneau. Un mot de la météo de demain, quelques gouttes de pluie sur la côte atlantique du Cotentin jusqu'à la Gironde, du soleil partout ailleurs, côté température, comptez 9 degrés à Strasbourg, 10 à Paris, 13 à Lyon et Bordeaux, 15 à Marseille et 16 à Ajaccio. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.